Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris et Goma, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est le journal d'Arthur Ponchelet à la une. Il y a 6 ans, il se tombait dans les bras devant le palais de la Nation à Kinshasa, mais c'était avant qu'il ne se tourne le dos.
Que reste-t-il de la relation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Question que l'on se pose alors que l'ancien président est désormais visé par des poursuites judiciaires, accusé de complaisance face au M23. Plusieurs officiers burkinabés arrêtés la semaine dernière. Aucune raison avancée par les autorités. Mais certains soutiens de la junte parlent de tentatives de coup d'état. Dans ce journal aussi, un représentant de l'ONU en visite à Abidjan pour tâter le terrain avant la présidentielle. Plus d'1 million de comprimés d'ecstasy saisis par la garde nationale en Tunisie. Et puis notre invité, juste après ce journal, Andréane.
Fidel Guanchika, ministre conseiller spécial de Faustin Archange Touadéra, on revient avec lui sur la situation politique en Centrafrique et cette question, le pouvoir va-t-il discuter avec l'opposition ? Après l'annonce fracassante de son retour, puis sa visite à Goma, en RDC, le temps des sanctions pour Joseph Kabila.
L'ancien président, désormais visé par des poursuites judiciaires, son parti, le PPRD, a même été suspendu par les autorités. En cause, le soutien supposé de l'ex-chef de l'État au M23. Il y a ces poursuites judiciaires, il y a aussi la relation entre l'ex-chef de l'État et son successeur, Félix Tshisekedi. Paul Lorgerie, rien ne va plus entre les deux hommes, même si ça n'a pas toujours été le cas.
Le 24 janvier 2019, lors de l'investiture de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila affichait un large sourire en remettant à son successeur l'écharpe présidentielle qu'il l'avait habillée pendant près de 18 ans. Les deux hommes s'étaient même tombés dans les bras avant de se saluer d'une franche poignée de main. Tout cela, c'était avant que Félix Tshisekedi tourne le dos à celui que l'on surnomme le Rice. En 2021, la majorité parlementaire dont ce dernier bénéficie rejoint en partie la cause du nouveau président. Tombé dans l'opposition, Joseph Kabila se réfugie alors derrière les mur de sa ferme proche de Lubumbashi, ne donnant quasiment plus de signes de vie. Avec une faible représentation à l'Assemblée et devenu critique du pouvoir, il donne ordre aux députés de sa formation politique de ne pas se représenter aux élections de décembre 2023. Enfermé dans son mutisme, les critiques à son égard se multiplient. Kinshasa le soupçonne de soutenir la rébellion du M23. Des accusations qui se sont concrétisées avec la suspension du PPRD et des poursuites judiciaires engagées contre lui. En cause, son probable passage à Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité, développe un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur. Si l'on ignore pour le moment où l'ancien président se trouve, son entourage a assuré qu'il s'exprimerait sous peu.
Paul Lorgerie, ses poursuites judiciaires et cette suspension du PPRD suscitent des réactions ce matin, notamment dans les rangs du parti de l'ancien président. Ce matin, sur notre antenne, Ferdinand Cambéré, le secrétaire permanent adjoint, parle d'une mesure arbitraire digne d'un régime totalitaire fondé sur des rumeurs. Réaction à lire et à écouter sur RFI.fr.
Et ce sujet, on y revient juste après ce journal dans la revue de presse africaine.
En bref, un accord signé au Tchad entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski. Il y a 7 ans, des tensions éclataient dans le Tibestis et dans l'extrême nord du pays. Tensions autour des richesses aurifères de cette région montagneuse et qui avaient même débouché sur un conflit armé pendant plusieurs mois. Hier, les parties se sont réunies à Bardaï et se disent satisfaites de cet accord.
Y a-t-il eu une tentative de coup d'État la semaine dernière au Burkina Faso ?
C'est ce que disent plusieurs soutiens à la junte. Aucune communication pour l'heure à ce sujet. Mais plusieurs officiers de l'armée burkinabé ont été arrêtés ces derniers jours. Xavier Besson, qui sont ces militaires interpellés ?
Parmi les officiers arrêtés, il y a notamment le magistrat commandant Frédéric Ouedraogo, ancien commandant du bataillon de la justice militaire. D'après nos informations, il était en train d'enquêter sur la mort par balle en octobre 2023 du commandant Ismaël Tougobou, soupçonné d'être en lien avec une tentative de coup d'État. À l'époque, le procureur militaire avait avancé que, je cite, l'interpellation aurait mal tourné. Autre officier arrêté, le capitaine Élisée Tassembédo, surnommé le libérateur de Séba, commandant du groupement des forces de sécurisation du secteur nord à Waïgouya, interpellé alors qu'il était à Ouagadougou pour une réunion à l'état-major, réunion dont le contenu reste ce matin inconnu. Deux hommes qui ont déjà été remplacés, alors que par ailleurs d'autres soldats ont été arrêtés sans que l'on sache exactement combien. Des partisans des militaires au pouvoir que nous avons contactés évoquent une nouvelle tentative de coup d'État et certains évoquent d'anciens officiers radiés de l'armée. des arrestations, en tout cas qui témoignent, disent nos sources, d'un climat tendu au sein des forces armées burkinabées.
Xavier Besson, 250 personnes tuées en 3 semaines et aucune région n'est épargnée. Le Nigeria, de plus en plus confronté à des attaques d'hommes armés. À chaque fois, c'est le même mode opératoire. Des habitants des communautés rurales sont abattus sur fond de conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi d'attaques terroristes. Correspondance à Abuja de Moïse Gomis.
Ce jeudi 17 avril, l'état de Benue dans le centre nord est endeuillé avec ses 56 victimes massacrées dans les districts de Logo et de Okoum. La veille, le mercredi 16 avril, un nouveau groupe armé, Mahamouda, élimine 15 personnes lors d'une attaque à Kemanji, une communauté de Kayama, une zone réputée pour sa production de karité dans l'état de Kwara, au centre-ouest. Les Mahamouda auraient pris également le contrôle de zones dans les districts de Babana et de Wawa dans l'état du Niger, toujours dans la bande centrale du Nigeria. Dans le secteur de Hong, de l'état d'Adamawa, dans le nord-est, Boko Haram tue le 15 avril 7 personnes en utilisant notamment des engins explosifs. Auparavant, du 3 au 10 avril, ce sont une vingtaine de personnes tombées sous les balles de groupes armés à Otupo et Kouer, dans l'état de Benue. Dans ce bilan macabre, l'état de Plateau a payé un lourd tribut. Du 27 mars au 2 avril, des miliciens armés présumés éleveurs ont provoqué la mort de pas moins de 113 personnes dans 6 districts de Bokos et Bassa. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Les États-Unis pourraient bien réduire drastiquement leur présence en Afrique. D'après une information de nos confrères du New York Times, le département d'État américain veut tout simplement supprimer son bureau pour l'Afrique et le remplacer par un bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines. Selon le projet, toutes les ambassades et les consulats considérés comme non essentiels en Afrique subsaharienne seront fermés. Les détails à lire sur RFI.fr.
RFI 6h37 en temps universel, lui au contraire veut renforcer les liens. Le représentant spécial de l'ONU était en Côte d'Ivoire ce week-end.
Leonardo Santos Simão a passé 2 jours à Abidjan, 48 heures, pour rencontrer toutes les parties prenantes de l'élection présidentielle d'octobre prochain, avec un but, renforcer le partenariat entre l'ONU et la Côte d'Ivoire, Abdoulaziz Diallo.
D'abord, un entretien avec le président de la République Alassane Ouattara, puis une rencontre avec les responsables de la commission électorale indépendante et enfin les principales forces d'opposition. En 2 jours, Leonardo Santos Simão a échangé avec les partis politiques engagés dans la course à la présidentielle. Dans le camp de l'opposition, des préoccupations persistent. Appel à une nouvelle révision de la liste électorale, refonte de la CEI ou encore reprise du dialogue politique. Des revendications exprimées notamment par le PPACI de Laurent Gbagbo et la coalition Cap Côte d'Ivoire qui regroupe notamment le PDCI-RDA, le FPI et le MGC. Leonardo Santos Simão, lui, a lancé un appel à l'apaisement. Il a exhorté les Ivoiriens à œuvrer ensemble pour l'intérêt national. Objectif affiché, des élections pacifiques, inclusives et transparentes. Un message de bonne volonté mais sans véritable levier d'action. Tempère un analyste politique. Cette visite intervient alors que le PDCI et le PPACI ont suspendu leur participation à la CEI, dénonçant un manque d'équilibre à 6 mois du scrutin. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Emmanuel Macron, lui, entame aujourd'hui une tournée dans l'océan Indien. Le président français a atterri à Mayotte tout à l'heure pour parler reconstruction après le passage du cyclone Chido. Il doit s'envoler ce soir pour la Réunion avant de se rendre à Madagascar où il participera au sommet de la commission de l'océan Indien. Sur la grande île, il sera aussi question du dossier des îles éparses et de restitution d'ossements humains. Ce sera le dossier du journal de Martin Guez dans 20 minutes. 1 200 000 comprimés d'extrait. La garde nationale tunisienne a annoncé hier cette saisie XXL, l'une des plus importantes de son histoire. Un coup de filet, Lilia Blaise, alors que la Tunisie intensifie sa lutte contre le trafic de drogue.
C'est dans le gouvernorat de Nabeul, à 60 kilomètres de Tunis, que s'est déroulée cette saisie de grande ampleur. Selon le communiqué de la garde nationale tunisienne, publié le 19 avril, les autorités ont démantelé un réseau international de trafiquants de drogue et saisi plusieurs voitures de luxe qui servaient au trafic. Cette opération record s'est déroulée après plusieurs mois de surveillance. La garde nationale communique sur des saisies presque quotidiennes qui témoignent de l'augmentation du trafic de drogue en Tunisie. Le porte-parole de la direction de la Sûreté nationale, Imed Memacha, avait même annoncé en mars que la Tunisie est devenue un pays de consommation de drogue par excellence à cause de la banalisation de l'usage de psychotropes chez les jeunes de 16 à 18 ans, dont la consommation de drogue a été multipliée par 5 ces dernières années. La diffusion de stupéfiants en milieu scolaire a également augmenté. La Tunisie n'est pas un pays producteur de drogue et fait l'objet de trafics accrus avec l'Europe pour les drogues dures et de synthèse. Plus de 5000 trafiquants ont été arrêtés dans le pays en 2024 contre 3165 en 2023. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
C'est une information RFI. Le pouvoir centrafricain dit formellement oui à un dialogue politique avec l'opposition. C'est le ministre conseiller spécial de Faustin Archange Touadéra, Fidèle Gwandjika, qui le dit ce matin sur notre antenne. Mais avec qui et sur quel sujet? Pour le savoir, Fidèle Gwandjika sera l'invité de Christophe Boisbouvier. Entretien à écouter juste après ce journal et d'ores et déjà sur l'application RFI Pure Radio.
C'est aussi en Centrafrique que nous emmène notre dossier ce lundi matin. Réunir la grande famille de la culture centrafricaine, c'est l'objectif du TI Festival.
Notre festival en langue locale sango, c'est la 4e édition de ce rendez-vous, créé par la musicienne Idil Mamba. Promouvoir l'éducation tout en valorisant le patrimoine national, tout un programme. Rochef Domialeu a assisté à l'ouverture ce week-end. Reportage.
Mesdames et messieurs, voici Idil Mamba.
Malgré le ciel gris, plusieurs milliers de personnes sont réunies dans la concession du complexe sportif Barthélémy Bouganda, transformé en village du festival. Drapé dans un costume traditionnel, l'attention de Marius Gamando est captivée par la succession des activités telles que la danse, le théâtre, la musique, le défilé de mode ou encore les jeux traditionnels.
Très fier de prendre part à ce festival. C'est une occasion brillante pour les acteurs culturels centrafricains de contribuer et d'éduquer, sensibiliser afin que ce public-là puisse rentrer avec les bases de la culture centrafricaine.
Pour Alex Balu, promoteur culturel, le festival honore la culture centrafricaine à l'échelle mondiale et encourage la jeunesse à renouer avec ses racines.
Pas mal de pays ont leur grand rendez-vous. Au Congo-Brazzaville, il y a le FESPAM, en Côte d'Ivoire, il y a le FEMUA, il y a le MASA. C'est depuis des années que Idil Mamba se bat pour qu'il y ait un grand rendez-vous en Centrafrique qui réunit vraiment toute la grande famille artistique et puis culturel. Et surtout, il y a un retour aux sources parce qu'il y a des jeux traditionnels qui sont en grand rendez-vous.
Le TI Festival est gratuit et prendra fin le 25 avril prochain. Refestive Domialeu, Bongi et RFI.
Voilà, le TI Festival, c'est donc un lieu d'apprentissage, un lieu de brassage culturel aussi, puisque plusieurs artistes venus du monde entier seront de la partie cette année. Ils vont partager leurs expériences et pourquoi pas dénicher les jeunes talents de demain. La chanteuse Idil Mamba est l'initiatrice de ce festival.
Le TI Festival se distingue par sa particularité qui est les jeux qu'on a introduits dans ce festival-là. Alors nous avons le Mbaba, je ne sais pas si ça se joue dans d'autres pays, mais je pense que c'est une particularité quand même de la République centrafricaine. Nous avons le Mbaba, le Amte, le Gbagba, les Kisoro. On a une programmation très riche cette année, comme d'habitude d'ailleurs, pour pouvoir rassembler le peuple centrafricain autour de sa culture, de sa tradition. Donc chaque Centrafricain vient avec les jeux de son enfance et partagé avec le public sur place.
La chanteuse Idil Mamba au micro RFI de Rolf-Steph Domialeu qui signe ce dossier à retrouver sur RFI.fr. Rendez-vous donc jusqu'au 25 avril prochain pour le TI Festival. C'est au complexe Barthélémy Boganda de Bangui et c'est gratuit. L'autre festival du week-end que l'on a suivi sur notre antenne, c'était le FEMUA à Abidjan en Côte d'Ivoire. Reportage de notre envoyé spécial Guillaume Thibault à retrouver quand vous le souhaitez sur RFI.fr.
Merci Arthur Ponchelet, c'était le journal sur RFI.